J'ai le plaisir de recevoir, et nous avons le plaisir de recevoir avec Alain, Hans Farnlöf, qui est donc maître de conférences en littérature française à l'université de Stockholm, en Suède. Il y a soutenu en 2000 sa thèse, qui était intitulée, n'est-ce pas, Hans, l'art du récit court, Pantin et parasite dans les nouvelles de Maupassant. Ses recherches ultérieures portaient sur la littérature française du 19e siècle à travers un corpus large d'auteurs réalistes naturalistes, Maupassant, Daudet, Zola et d'autres. Il avait à cette époque-là publié de nombreux articles dans la revue Poétique ou dans les cahiers naturalistes. Donc il est spécialiste des formes brèves, des questions de représentation du réel, de motivation, donc d'approche sémiotique, poétique, liée au genre aussi, dans la production littéraire. Il a participé à des projets internationaux, comme la bibliographie Maupassant et Flaubert sans frontières, et il mène actuellement son propre projet de recherche, dont on peut dire qu'il croise nos problématiques sur le naturalisme-monde. Donc nous sommes très heureux justement de le recevoir sur ces questions de transfert littéraire en Europe, et donc je vais lui donner la parole sur le sujet qu'il va annoncer. Merci Hans.
Merci.
Je vais distribuer.
Merci. Bonjour à tous. Merci Alain Pagès et Olivier Le Grosso de m'avoir invité. J'avais parlé au séminaire Zola en 2007, donc si tout marche bien, je reviens vers 2029, tous les 11 ans. Je vais parler en m'appuyant sur le corpus suédois, le champ littéraire en Suède, pas parce que ce champ serait particulièrement intéressant ou important, parce que la Suède n'est pas très importante en histoire littéraire, sauf peut-être aujourd'hui où tout le monde apparemment lit des polars suédois. Mais mis à part cet instant de gloire dans l'histoire littéraire, la Suède en elle-même n'est pas très importante. Aussi commenterai-je cette matière comme je l'utiliserai comme matériau pour formuler des perspectives plus générales, méthodologiques justement, dans le cadre du projet Naturalisme Monde, des perspectives générales sur la traduction, la traductologie. Voilà. Et je communiquerai ces pensées en parlant. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un manuscrit. Voilà, j'espère que ça va aller quand même. Je commettrai évidemment des maladresses durant cette communication. Et je vous invite à faire semblant de rien, c'est le cas. Je ferai de mon mieux. Et j'ai listé dans l'introduction quelques dimensions, quelques axes qui me semblent obligatoires. Quand on parle de la traduction, évidemment l'axe linguistique, puisqu'il s'agit de traduire une langue, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Après s'ajoutent toutes les difficultés que constitue la poétique de l'écrivain, l'écriture, le style, etc. Et enfin la sociocritique, qui, je pense, à laquelle on n'échappe pas. C'est particulièrement clair avec Zola, qui a vécu une réception vive, pour dire le moins, mais je pense que ça vaut pour tous les auteurs, qu'il ne suffit pas de voir quel texte est traduit, mais voir aussi la réception, quel texte n'est pas traduit, etc., est-ce qu'il y a censure, etc. Donc je ne vais pas faire une très longue introduction, mais entrer tout de suite dans la matière et développer les pensées au fur et à mesure que j'aborde les données. Voilà. Et je commence par l'axe sociocritique. Pour situer Zola. Et c'est, je listais d'abord les premières traductions de quelques romanciers réalistes. Je ne vais pas entrer dans la question de savoir réalisme, naturalisme, etc. On pourrait parler de romancier du réel, comme le proposait Jacques Dubois. Mais ici, le réalisme, c'est un certain sens, puisque je veux faire appel à l'article célèbre de Romain Jacobson, du réalisme en art, où il, entre autres, définissait le réalisme comme la réaction d'une œuvre soit conforme, pas non conforme aux attentes. Et là, quand on considère la première traduction de Zola, qui est 79, c'est l'Assommoir, il est intéressant de voir, au lieu de simplement dire voilà la date et on reste là, mais voir l'entourage, le climat éditorial, le champ littéraire à l'époque, ça devient plus intéressant, parce que qu'est-ce qui précède Zola? Il y a deux auteurs non conformes à l'attente, c'est Eugène Sue et Balzac, qui étaient choquants à leur époque. Mais, comme vous voyez, ils ne sont plus traduits depuis 3 décennies. Il y a une vide pendant 30 ans. Il y a Dickens, il y a Daudet. Mais ces deux auteurs sont conformes aux normes. Ils sont considérés comme des réalistes sains, même s'il y a du réalisme. Daudet, déjà à 65, c'est L'œillet blanc qui traduit le drame. Et il y a quelques romans aussi de Daudet traduits juste avant Zola. Mais Zola, c'est le premier romancier choquant. C'est la première œuvre choquante traduite. Donc d'où l'importance de voir le contexte. C'est un choc quand on traduit. Là, il n'y a rien d'équivalent qui précède. Et là, je renvoie, si je peux, à mon propre article qui va paraître dans les Cahiers naturalistes sur la percée de Zola en Suède, où je parle beaucoup plus de la réception des premières années, une réception très critique dans la presse. Et là, vous pensez, mais il est où Flaubert ? Flaubert n'est pas traduit en 79, il n'est toujours pas traduit. Première traduction de Flaubert, c'est 83. Les Goncourt ne sont pas traduits, ils sont traduits en 82. Donc vous voyez tout l'impact de Zola qui est le premier à être traduit. Voilà. Une fois Zola placé dans un petit contexte, on peut peut-être considérer aussi l'histoire des publications, là avec beaucoup de réserves, parce que ce n'est pas sûr que tous les chiffres soient exacts. Parfois c'est difficile de voir dans l'index s'il y a une édition ou deux, etc. Mais c'est à peu près correct. C'est à peu près correct les chiffres. Et on va peut-être pas aller trop loin avec les chiffres. Vous connaissez aussi le fameux mot de Mark Twain qui parlait de mensonges, les trois formes de mensonges, les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Mais je pense que les statistiques, ça peut quand même donner une sorte de matériau de base de réflexion. Et on peut tout de suite voir que Zola est très très présent jusqu'aux années 30. Il est très très présent par rapport aux autres romanciers comparables. Il tient bien le rang, il reste présent dans la vie culturelle en Suède jusqu'à aujourd'hui. J'insiste sur l'importance de considérer, d'avoir une perspective comparatiste, parce que si on considérait que les éditions de Zola, on se demanderait qu'est-ce qui se passe avec Zola les années 30. Parce que tout d'un coup, et voilà, vous voyez la chute des années 30. Mais vous voyez aussi qu'il y a une chute générale les années 30 des éditions. Et ça concerne tous les auteurs, c'est pas que Zola. Donc l'importance de la perspective comparatiste des années 30. Et ce serait intéressant de voir s'il y a aussi une chute des livres allemands. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose d'idéologique politique derrière. Il faudra vérifier. Un petit mot, sans faire trop de statistiques, c'est par rapport à notre siècle. Et vous voyez à la fin, sans trop compter, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éditions de la littérature classique de notre siècle. Et on pourrait croire qu'il y a un retour à l'érudition en Suède, ce n'est pas du tout le cas, c'est plutôt le contraire. Mais il y a beaucoup d'éditions grâce, ou à cause de, comme vous le voulez, des éditions numériques. C'est-à-dire qu'à peu près 2/3, je dirais, de ces éditions ne sont pas imprimées. Donc ce sont des éditions livres sonores, livres électroniques, notamment faites pour les applications, écouter ton roman dans ton portable, etc. Et là, on peut voir que les rapports sont inversés. Avant les années... avant notre siècle, on a imprimé un livre et... peut-être qu'on faisait aussi une variante numérique. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait une édition numérique et peut-être aussi un livre imprimé. Donc, c'est complètement changé. Et pour qui se demande comment ça se fait que Maupassant, il y a tellement d'éditions, les années 2010, c'est que chaque nouvelle compte séparément. S'il y a un recueil de nouvelles, chaque nouvelle, c'est une édition. Donc, tout de suite, un recueil de nouvelles, c'est 15 éditions dans les registres. Mais donc, Zola présent et une grande présence... des éditions numériques, un changement de climat culturel. Bon, je vous invite à tourner la page. Et là, c'est une liste que j'avais présentée. Il y a eu une colloque à Rome l'année dernière, que j'ai quand même mentionné. Et il y a eu une publication qui a suivi. Un colloque qui est porté sur les traductions de Zola dans le monde entier. Où là, j'avais participé, ça vient de sortir, on peut le trouver sur le net, n'est-ce pas, on peut le télécharger, voilà. Et j'avais présenté cette liste au grand plaisir d'Henri Mitterrand, qui trouvait qu'il fallait faire cette liste pour tous les pays. Et je suis d'accord parce que la réception, ça devient intéressante quand on commence à comparer les pays différents. Et là, je voudrais mentionner les travaux coordonnés par Yvan Leclerc pour Flaubert. C'est ce projet Flaubert sans frontières que vous avez mentionné. Et là, ça commence vraiment à être intéressant quand on va sur le site Flaubert, les traductions dans des pays différents. Je pense là, on a traduit ce monde pour Zola. Ce serait intéressant de voir quelle œuvre a percé et où et pourquoi. Au lieu d'encore une fois de... Souvent, je vois dans les études de réception, de traduction, on voit l'étude d'une œuvre, d'une année, et ça ne dit pas grand-chose si on ne voit pas ce qui entoure, finalement. Et là, j'ai voulu montrer l'écart des années de parution, c'est mon choix. Et j'ai mis la Suède d'abord, pas par patriotisme, mais je pense que on va voir mieux comment ça marchait. La parution en France et l'écart des années. Donc, quelques romans de romans de jeunesse, hein, on les appelle peut-être des romans de jeunesse, je ne sais pas, ils ne sont pas traduits encore, à ma connaissance. Donc, ça commence avec l'Assommoir, et vous voyez, à partir de l'Assommoir, que, voilà, traduction énorme de Zola. Et là, comparaison, je rappelle, Balzac n'est pas traduit jusqu'en 93. Et vous voyez qu'il y a une dizaine, il y a une douzaine de romans de Zola, mais rien de Balzac. Si vous voyez jusqu'aux années 1900, il y a une quinzaine de romans traduits. Hein. Alors, Flaubert, il y a deux romans traduits au 19e siècle en Suède, à titre de comparaison. C'est Madame Bovary et Salambo. Les Goncourt, il y a une seule traduction au 19e siècle. C'est La fille Elisa. Donc vous voyez qu'il y a un impact énorme de Zola et que les traductions, ça passe vite. Hein, c'est souvent la même année, même. Et là, pourquoi est-ce que j'ai noté l'écart? C'est parce que je trouve que l'écart, parfois, est significatif. Pas les premiers écarts, parce que vous voyez, 83, c'est La fortune de Rougon. Cet écart s'explique par le fait qu'on redécouvre les anciens Rougon-Macquart. À partir de l'Assommoir, qui se vend, on dit, on va aussi prendre les anciens Rougon-Macquart. Il a écrit autre chose. Mais ensuite, il arrive quelque chose, et j'y mets en gras, je ne sais pas si c'est visible, mais j'essaie de mettre en gras 86-91, les années, parce que là, il y a une pause. Il y a quelques œuvres qui manquent, hein, dans la lignée Rougon-Macquart. Ces œuvres se retrouvent en bas. C'est La Terre, Le Rêve et La Bête humaine. Donc, là, je ne sais pas pourquoi... hypothèse, c'est quand même que c'est le débat autour de la Terre, scandale autour de la Terre qui fait que l'éditeur n'ose pas, tout simplement, éditer. Et quelque part, ça semble avoir contaminé Le Rêve et La Bête humaine aussi. Donc, je dois dire que moi, je ne suis pas spécialiste de Zola, comme sont d'autres ici, je n'ai pas lu tout Zola, mais j'ai lu Le Rêve. Et d'après mon souvenir, ce n'est pas du tout un roman qui serait parmi les plus choquants, n'est-ce pas? Presque le contraire, je ne sais pas. Mais c'est comme si c'était contaminé par, non? Je ne sais pas. Et ça vient beaucoup, beaucoup plus tard. Ensuite, à partir de l'argent, on reprend Zola de nouveau. Et vers la fin du siècle, sans doute en rapport avec le bruit autour de Zola, autour de l'affaire Dreyfus, on reprend aussi d'autres Rougon-Macquart. Donc plusieurs écarts significatifs et qui pourront être intéressants de voir aussi dans d'autres pays. La percée de Zola, le débat sur la Terre, l'affaire Dreyfus par rapport à la publication, la mort de Zola, centenaire, etc. Ou bien on fait un film avec Depardieu, donc nouvelle édition de Germinal. Cela pour dire qu'il n'y a rien de fatal dans les traductions. Zola n'est pas nécessairement traduit. Il y a des choses parfois accidentelles qui influencent les traductions. On peut sûrement revenir à cette liste, je ne veux pas faire trop de statistiques pour la discussion, je parle d'autres détails, et je passe à ce type de palmarès que j'ai mis. Page 3. Vous n'avez pas besoin de retenir la date. Mais simplement voir le nombre des éditions, je pense qu'il y a que c'est qu'il n'y a pas trop de surprises.
Thérèse Raquin, Nana, Germinal Assommoir. Je pense à peu près les titres les plus populaires en France aussi. Je voulais simplement commenter un peu quand on dit que Zola est traduit en suédois. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous voyez qu'il y a un bon nombre de titres qui déjà sont traduits une seule fois et dont il existe un exemplaire dans la cave de la Bibliothèque royale de Stockholm, mais qui n'est pas en circulation. Donc qu'est-ce que ça veut dire c'est traduit? Est-ce que ça existe toujours? Sans doute pas. Il y a un bon nombre d'œuvres qui sont plus ou moins pas traduites après 27. À 1927, il y avait beaucoup de traductions, apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Ce serait intéressant de savoir. Et sinon, j'ai mis en gras, en italique, tout ce qui n'est pas imprimé. Et vous voyez à partir de l'an 2000 que c'est assez impressionnant le nombre d'éditions numériques. Et que c'est plus ou moins une seule œuvre qui se distingue, c'est Thérèse Raquin. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, il faudra vérifier, mais j'ai l'impression que cela s'explique en Suède par le fait qu'on inclut Thérèse Raquin dans le cursus de littérature comparée. Comme représentant, illustration du naturalisme, c'est ce que je crois. Parce que ce n'est pas trop long, et c'est très pédagogique de parler de l'hérédité de milieu dans Thérèse Raquin. Je pense que c'est pour cela que c'est encore édité sous forme imprimée, qui ne sont pas les autres. On peut encore remarquer que Nana, qui était longtemps le roman le plus édité à partir des années 70, apparemment c'est peut-être pas aussi choquant qu'avant, parfois l'esprit du temps. Ce qui peut influencer aussi le nombre d'éditions. Voilà. Je vous invite après pour la discussion de revenir s'il y a des choses étonnantes dans cette liste, on peut sûrement discuter, je ne vais pas prendre trop en détail. Voilà, mais là c'est un début pour une discussion. Et je pense encore une fois, ce qui serait intéressant, c'est de voir justement par rapport à d'autres pays, quel texte est le plus important dans quel pays, quelle édition, etc. Par exemple, Débâcle, ce n'est pas presque pas lu en Suède, mais la Suède n'a pas vécu la guerre pendant 2 siècles. Par exemple, peut-être que le débat sera plus édité en Allemagne. Voilà, des circonstances comme ça que peut-être on pourrait considérer. Là, j'ai parlé d'édition. Et là, on entre dans la traduction. Parce que toutes ces éditions ne sont pas évidemment chaque fois de nouvelles traductions. Et je me rends compte qu'il existe beaucoup moins de traductions que je croyais. Et là, je cite Valerie Minogue, que vous connaissez. Sans doute, peut-être, qui est présidente de Emile Zola Society à Londres, et qui a traduit L'argent il n'y a pas longtemps, et je la cite, citation 1, elle dit « Toutes les éditions ultérieures de Manet, y compris celles qui se disaient nouvelle traduction, allaient reproduire ce même texte avec parfois quelques petits ajouts. Il a fallu 120 ans pour avoir une vraie nouvelle traduction, donc la sienne. » C'est mon expérience aussi, ça peut bien être écrit, c'est le texte intégral, c'est pas le texte intégral. Ça peut être écrit, c'est une nouvelle traduction, c'est pas une nouvelle traduction. On peut même mettre un nouveau nom du traducteur, mais c'est une révision. Et là, je pensais vous faire part de ma naïveté méthodologique quand je devais préparer mon intervention pour Lille, où vous avez assisté. Et comme ça portait sur le paysage industriel, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traductions de Germinal. Et je pensais, c'est parfait, je pourrais voir comment je vais partir de la première traduction très déficitaire du 19e siècle, coupée, abrégée, censurée, et petit à petit, je verrai la parfaite traduction de 2014, avec nos connaissances de Zola, nos connaissances en traductologie. Finalement, j'ai trouvé qu'il n'y a que 2 traductions, et c'est celle que j'ai mise en gras. Il y a la traduction de 85, la première, et la deuxième qui est de 1911. Et encore, cette deuxième, ça pourrait être une révision de la première. Donc il n'y a peut-être qu'une seule traduction vraiment de Germinal en suédois. Et les autres, c'est soit des révisions, soit des versions très abrégées. Donc cela veut dire évidemment que la première traduction est extrêmement importante, puisque c'est celle qui gouverne le reste. Et alors, c'est très étonnant, cette première traduction est extrêmement bien faite. On dit parfois qu'au XIXe siècle, toutes les traductions sont mauvaises, de toute façon. Mais là, il c'est vrai qu'il y a beaucoup souvent une liberté hein, face à l'original, mais là, c'est très très fidèle. Le traducteur s'est renseigné auprès des mines pour avoir la bonne terminologie, par exemple. Il y a presque tout le détail, et il n'y a presque pas de censure, sauf la scène obligatoire de Maigrat, qui est censurée. Mais à part cela, il n'y a aucune censure politique. Il n'y a aucune censure du corps, du sexe, etc. Donc c'est très, très, très étonnant. Il y a aussi, aussi une tentative de la part du traducteur de saisir le titre. Parce que les titres de Zola, c'est tout un chapitre, si on veut dire, avec un jeu de mots. Mais les titres sont parfois difficiles à traduire. Et Germinal, évidemment, en fait partie. Et le titre proposé, c'est « L'herbe vernale ». Mais il faut dire que l'herbe vernale en suédois, mot par mot, c'est « pousse de printemps ». Et ça reprend un peu Germinal, que ça pousse à la fin. Donc je crois que c'est un beau titre. Et de 1911, c'est aussi un bon titre. J'ai mis « Le point de jour » en français. Mais en suédois, « dag breckning », ça veut dire « dag », c'est « jour ». Et vous reconnaissez peut-être « break » de l'anglais « break ». Donc c'est le jour qui éclate. Hein. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu dramatique. Hein. Les autres traductions s'appellent la grande grève minière. Et ça, c'est... Bon, il n'y a pas cet élément de Germinal là-dedans. Censure simplement de la scène de Maigrat. Et là, je vous invite à deviner dans quelle édition est-ce que la scène de Maigrat est enfin incluse. Ce n'est pas une question rhétorique, je vous demande, c'est ce que vous en pensez. Dans quelle édition est-ce qu'il n'y a plus censure ? Quelle année ?
2013.
Non, c'est plus tôt. C'est 71. C'est 71. Alors la question, est-ce qu'il y a eu censure avant ? Ce n'est pas sûr qu'il y ait eu censure les années 40. Il se peut aussi qu'on a simplement repris la traduction sans savoir qu'il manquait quelque chose. Donc, mais en tout cas, en 71, quelqu'un a dû dire « Bon, il me semble qu'il manque une scène parce que je lis l'original. » Et aussi, c'est peut-être accidentel. Il n'y a rien de fatal dans la traduction. On aurait pu avoir toujours une traduction pas complète en suédois. L'autre point, un petit point que j'ai mis après, c'est la division en parties. Donc, comme vous savez, Germinal est divisé en deux grandes parties. J'attends des protestations parce que ce n'est pas le cas. sauf dans les traditions suédoises. Dans les traditions suédoises, à partir des années 40, c'est en deux parties. C'est très étonnant. Il y a 25 chapitres, et après la deuxième partie, 26 chapitres. On coupe au milieu pour faire deux parties. Alors, quelle est la version qui inclut la scène de Maigrat et qui respecte la division en parties ? J'en ai pas trouvé. Ça veut dire qu'on n'a pas de traduction correcte de Germinal en suédois. Donc, contrairement à mon attente pour suivre les traductions qui seraient de mieux faites, voilà, on reste là pour les traductions. Voilà, pour illustrer qu'il faut aller bien sûr au-delà des statistiques pour voir ce qui se cache derrière ces titres. Et enfin, un mot sur les titres, je pense que c'est très important. Je peux mentionner par exemple que La faute de l'abbé Moret, le titre, première traduction, c'est Le faux pas. De l'abbé Maigret, par exemple.
Mouret, pas Maigret. Mais voilà. C'est vrai qu'il est. La serpe est passée par là aussi.
Voilà. Le faux pas de l'abbé Mouret, et au lieu de la faute, hein, ce qui change un peu, n'est-ce pas, les données. Hein. L'abbé a fait un faux pas. Voilà. Voilà. Par contre, donc, la censure, je dis qu'il n'y avait pas de censure 85. Par contre, il y a de la censure 79, l'assommoir. Et on pourrait alors penser que, d'accord, 79, censure, parce que c'est le premier roman, c'est le choc, 85, on s'est habitué à Zola, pas de censure. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que c'est plus, encore une fois plus accidentel que ça. Je pense que c'est un rapport avec déjà l'ambition du traducteur, 85, qui est très consciencieux. Et il y avait un éditeur qui était aussi très libéral, qui a osé éditer Germinal sans censure. Parce que dans les versions ultérieures, il y a encore la censure. Donc c'est difficile de voir une tendance vers la non-censure.
Et j'ai voulu montrer, pour exemplifier, vous voyez que c'est assez brutal, hein, le changement opéré. Et je veux dire qu'il n'y a pas de censure officielle, c'est l'éditeur qui fait ses choix, il n'y a pas de censure de l'État. Là, j'ai étudié notamment la bataille entre Gervaise et Virginie, et vous voyez que, hein, il y a beaucoup par rapport au corps, par rapport au sexe, par rapport à la violence qui est supprimée. Hein. La censure préférée de ma part, c'est la citation 3, quand j'ai écrit « Il jouissait des morceaux de peau que les deux femmes montraient, la petite blonde était grasse comme une caille, ça serait farce si sa chemise se fendait. » Tout ça, c'est remplacé par « Il jouissait de ce qu'il voyait. » Ce qui est vrai, hein, mais ce qui est vraiment... On lève ce qu'on a vu. Alors, par rapport à la censure, je vais mentionner quelques perspectives. La première, c'était que je pense que c'est parfois accidentel. C'est pas forcément une ambiance qui décide que s'il y a censure ou non. Il peut s'agir de ces acteurs qu'on voit pas, auxquels on pense pas, traducteurs, éditeurs. Parfois, on les appelle les agents secrets. Hein. Nos méthodologies, très bien. Les agents qu'on voit pas. Plutôt que le milieu ou le champ qui décide de tout. Et l'autre point que je voulais mentionner, là je vous invite à tourner la page, page 5, l'autre perspective c'est que du peu que j'ai étudié, j'ai pas trouvé de censure systématique. Donc on peut dire que le corps est censuré, le sexe est censuré, la violence est censurée, mais pas toujours. Je peux pas voir que tel type de mot est toujours censuré, mais j'ai l'impression, je ne sais pas comment l'expliquer, qu'il pourrait s'agir d'une sorte de censure que j'appellerais relative ou proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y a 5 insultes, on en enlève 2 au moins. C'est-à-dire que c'est un peu trop, on enlève un peu. Donc on n'enlève pas toutes les insultes par principe, mais qu'on euphémise un peu, on réduit un peu. C'est mon impression, là c'est l'hypothèse. Et je voulais exemplifier avec la citation 4, où c'est écrit que pendant la bataille, l'eau, c'est la deuxième ligne, l'eau entrant par son cou coula dans son dos et dans sa gorge, pissa par-dessous sa robe. Il y a le mot pisser en suédois et c'est très vulgaire. Donc pisser par-dessous sa robe, ça a été enlevé. Mais l'eau qui coule dans sa gorge, c'est assez suggestif par rapport à l'époque, mais c'est resté. Donc là, c'est tout à fait hypothétique de ma part, mais s'il n'y avait pas eu pissa par-dessous sa robe, peut-être qu'on aurait enlevé dans sa gorge. C'est ça que je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais c'est comme si c'était... On enlève ce qui est pire, on n'enlève pas par principe. Donc tout cela porte à modifier un peu les constatations un peu trop catégoriques qu'au 19e siècle, il n'y a pas de bonne traduction, au 19e siècle, on censure toujours le corps. Alors, ça peut être contextuel, co-textuel aussi. Hein, c'est simplement une hypothèse, hein, parce que je ne peux pas le prouver encore. Et donc, dans Germinal, 1903, retour à la censure, ce qui souligne que c'est peut-être plus accidentel que champ littéraire. Les deux passages que je vous ai mis, 5 et 6, ils sont tous censurés, tout le passage est censuré. Le premier sur le mâle qui renverse la femme, brutal, tout ça c'est censuré. Et le deuxième, c'est donc, il s'appelle la Maheude, c'est ça ? La Maheude qui lave Depardieu, hein, du dos elle fait descendre. Même, il n'y a rien de sexuel, mais c'est le corps, tout simplement, qui choque. Hein. Dans cette édition-ci, mais pas 18 ans plus tôt, hein, dans l'édition originale. Voilà. Un dernier commentaire de cette perspective socio-critique de la traduction, c'est que c'est très difficile de tirer des conclusions. Hein, pas parce qu'on ne connaît pas le lectorat. Mais pourtant, il y a des chercheurs qui spéculent un peu sur les effets de la traduction, et encore sur les effets d'une traduction imaginée. Et ce qui m'étonne. Et l'exemple, là, c'est de Svan, la citation 7, qui dit que si Lundqvist, c'est le traducteur de Nana, s'il avait choisi une autre approche, plus exhaustivement fidèle à Zola, il est très probable que cet auteur aurait été moins lu, moins connu et moins respecté en Suède. Et je pense que ce n'est pas du tout très probable. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien, c'est pour être franc. L'accueil d'un écrivain est loin d'être limité aux traductions. À cette époque, l'élite intellectuelle lisait Zola en original. Ça se voit très clairement dans la presse qu'ils connaissent, les œuvres de Zola qui ne sont pas traduites. Et eux, ils jugent évidemment Zola, non pas d'après la traduction, mais d'après le texte original. Après,
Zola, vous avez vu, il vend énormément. Et c'est peut-être justement parce qu'il était choquant. S'il y a eu moins de censure, peut-être que ça aurait appelé encore plus. C'est, simplement, je dis, on ne sait pas. Donc je pense qu'il faudra se garder de faire ces conjonctures sur... comme contrefactuel, comme on fait en histoire. Qu'est-ce qui serait passé si Hitler avait été tué? Et si, qu'est-ce qui serait passé avec une autre approche? Ça aurait sûrement donné. C'est déjà assez difficile de dire qu'est-ce qui s'est passé, hein, réellement. Donc je préfère cette pensée de Schiller de Cariboni, citation 8, hein, qui a fait une très belle étude sur le littératif que je vais commenter tout à l'heure, qui dit à la fin « Seule une étude empirique menée sur le vecteur réel pourrait venir confirmer l'hypothèse. » Étude empirique menée sur le lecteur suivi dans la première tradition d'un âme, bon, c'est assez difficile de faire cette étude, puisqu'ils sont tous morts. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas faire l'hypothèse sur l'effet du lecteur. Par contre, on peut constater l'écart entre la traduction et le texte original et réfléchir là-dessus. Pourquoi? Comment est-ce que ça a été fait? Mais pas aller dans les spéculations. Voilà pour tout ce qui est socio-critique, et ne vous inquiétez pas, parce que les deux autres parties sont beaucoup plus courtes, que ce ne sera pas aussi long. L'axe poétique peut être aussi une dimension extrêmement difficile pour la traduction, et je voulais commencer par une citation de Nelson, Brian Nelson, que vous connaissez peut-être, traducteur et connaisseur de Zola, qui dit, citation 9, « La traduction littéraire est une forme particulière et particulièrement intense de lecture critique et de création littéraire. Ben, » ce qu'il dit, c'est que la traduction, c'est une interprétation quelque part. Et je suis tout à fait d'accord que lire Zola en suédois ou lire Zola en français, ce ne sera jamais la même chose. On ne pourra jamais faire une traduction qui reflète complètement. Il y a toujours question quelque part de choix, d'interprétation. Et c'est pourquoi... je ne suis pas cette méthodologie que je vois très souvent dans les études, que j'appelle le texte cible comme cible. C'est-à-dire, on prend la traduction, on se centre sur un passage, sur un motif, pour dire que là, il y a un mot qui n'est pas vraiment traduit comme il faut. Et souvent avec une réflexion que le lecteur ne comprend plus. C'est-à-dire des conclusions qui vont très très loin. Tel mot à la page 213, ce n'est pas traduit de la même façon à la page 420, donc tout est perdu. Je pense qu'on va très très loin dans ces conclusions. Et je pense que c'est extrêmement difficile de parler de traduction, parce que quand on dit qu'il y a une bonne traduction, on présuppose qu'il se soit possible déjà de transposer une langue vers une autre. Et je pense que c'est impossible. Déjà, la langue même dénotative, porte tout un héritage, toute une culture, toutes des conceptions. Si je lis par exemple le mot forêt à quelqu'un, un homme du nord de la Suède, et je lis de quelqu'un qui vient des Alpes et de Haute-Provence, par exemple, ils vont concevoir deux choses complètement différentes. Le mot grève en suédois dénote un événement exceptionnel. c'est-à-dire qu'il y a, toute une culture, toute une société derrière les mots. Après, on peut encore discuter. Telle connotation, est-ce que rouge, vermeil est traduit par rouge ou par rouge, vermeil, quelle est la différence? Il y a sans doute une nuance qu'on ne peut pas toujours saisir, mais de là à dire que tout se perd, je pense qu'on va très loin. Et je pense qu'il faudra vraiment se garder de parler d'une bonne traduction, parce que qu'est-ce que c'est une bonne traduction? Est-ce que c'est même possible? Et si on dit bonne traduction, on dit aussi bonne originale, c'est-à-dire que je connais la bonne traduction parce que je sais exactement comment lire l'original. Et le texte original est aussi sujet à des interprétations. C'est pourquoi je préfère cette autre méthodologie que j'appelle le retour au texte source. Et c'est encore Gilani Cariboni qui a proposé cela, et dans une étude sur littératif, non Anna. Et pour expliquer la valeur de l'étude, il faudra qu'on fasse un peu de grammaire suédoise. Ce ne sera pas long. Littératif, c'est encore un terme de Genette, encore un. Vous savez que c'est représenter quelque chose qui arrive plusieurs fois, une seule fois. Hein. Que chaque jour, Nana sortait, ou bien chaque soir peut-être, plutôt, Nana sortait, ou bien c'est opposé au singulatif, qui est un événement raconté une fois. Hein. Ce soir-là, Nana sortit. En français, c'est plus facile, parce que vous avez l'imparfait et le passé simple, qui déjà, par le temps grammatical, montre qu'il y a alternance. On se dit à un seul temps. il n'y a pas de passé simple, on pourrait dire, il n'y a que l'imparfait. Donc il n'y a pas le moyen, par le temps grammatical, de montrer que c'est un événement unique. Ce qui oblige le traducteur à ajouter « et alors » pour marquer qu'il y a quelque chose de nouveau. Et elle fait une très belle étude là, sur cette problématique, parce que c'est important pour comprendre l'intrigue. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe chaque soir? Est-ce que c'est une habitude? Ça, c'est très important dans la littérature réaliste, n'est-ce pas, française, qu'on prépare par bonne habitude, par bon rituel, ou est-ce que c'est un événement unique où il va arriver quelque chose d'important? Et Shilani Kariboni ne vise pas à attaquer le traducteur, mais elle dit à la fin, citation 10, « L'intérêt d'une telle confrontation, donc confrontation entre littératif en suédois, comment ça ressort par rapport à l'original, réside entre autres dans la possibilité de faire ressortir par contraste des aspects délitératifs liés à l'emploi particulier qu'on fait Zola, et du mieux saisir par là la spécificité du texte original. » Donc c'est beaucoup plus visiblement un retour à le texte source, au lieu de focaliser sur comment on aurait dû traduire. Et ça, c'est ma méthodologie, je vais emprunter un autre, pour le montrer, illustrer avec une image. Je vois la traduction comme une sorte, c'est pas une copie, mais c'est une sorte de, il y a une sorte de décalage entre traduction originale, et on peut placer presque la traduction comme une sorte de grille de lecture, et voir le décalage, et au lieu de critiquer cela, on pourra voir qu'est-ce qu'il y a qui on n'arrive pas à traduire. Peut-être par là, on arrive à saisir quelque chose de très important, culturel, linguistique, personnel de Zola, qu'on n'arrive pas vraiment à mettre en suédois. Et là, c'est aussi un moyen, je pense, de parler de texte original en faisant la traduction. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et avec cette idée que le regard de l'autre, le regard étranger, peut toujours apporter quelque chose. Et je vais donner un petit exemple anecdotique que j'ai déjà utilisé pendant le cours de Philippe Hamon, mais je vais le reprendre. Et vous connaissez le petit pain suédois ? Petit pain suédois, vous le connaissez, hein? Moi aussi. Mais c'est en allant en France que j'ai appris que c'était suédois. Je ne savais pas que c'était suédois avant. J'avais mangé le petit pain suédois, mais on ne les appelle pas des petits pains suédois en Suède. On les appelle petit pain, même pas petit pain, on les appelle autre chose, on les appelle skorpa. Mais c'est intéressant parce que c'est en ayant le regard de l'autre qu'on voit plus clairement ce qu'on a toujours vu devant soi. C'est un peu pour illustrer ce que parfois ça peut être utile de voir. La traduction dans cette façon. Et je voulais donner quelques exemples, si vous tournez la page, de cette méthodologie. Cette méthodologie est donc une tentative de trouver un niveau intermédiaire entre les statistiques qui ne disent pas assez et entre l'étude d'un seul motif qui n'est pas traduit comme il faut. Mais de trouver, identifier quelques dimensions, et j'ai dit là quelques stylèmes de Zola, quelques dimensions qui me semblent très importantes pour saisir Zola. Et j'ai mis donc trois catégories, discours détaillé explicite pour commencer. Et dans la traduction de l'Assommoir, qui n'est pas abrégée, mais il y a plein de petits détails qui ne sont pas donnés, c'est assez intéressant de voir que c'est la façon précise de Zola d'écrire qui n'a pas toujours été respectée. Les objets ne sont pas toujours décrits dans... physiquement pas toujours décrits, les personnages pas toujours nommés, hein. Et souvent on pourrait les voir non comme des omissions mais comme des implicitations, qui c'est implicite par le contexte. Donc c'est pas une question de défendre le traducteur, simplement dire que par exemple le premier exemple, elle râlait, la voix changeait, mais s'il râle c'est que la voix est changée, vous voyez, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est implicite que la voix est changée s'il râle. Des sous vidés à toute volée, ça c'est la bataille entre Gévers et Virginie. Et là encore, on pourrait pas défendre, mais on pourrait simplement dire qu'il y a une bataille. Forcément, ils vont lancer l'eau, ils vont pas couler l'eau sur l'autre. Viens ici, je coule l'eau tranquillement, maintenant c'est à toi, n'est-ce pas? Mais ce sera forcément lancé à toute volée. Et il y a ces petits. Cela montre. Peu importe la qualité de la traduction, ça montre, je pense, encore plus clairement la précision du discours de Zola. Cette myopie réaliste dont on a parlé, qu'on va dans le détail, on explicite tous les liens. Et ça ressort, je pense, encore plus clairement quand on voit ce qui est supprimé. Les enfants, Claude Etienne, on sait déjà qu'il s'appelle Claude Etienne. Mais Zola aime bien préciser, concrétiser, n'est-ce pas? On voit tout de suite le style de Zola, il me semble, apparaître par rapport à ces changements. Autre chose, là, j'avance dans le domaine des spécialistes zoliens, donc j'attends peut-être avoir des protestations, mais il me semble, en tant qu'amateur de Zola, que l'espace-temps est extrêmement important, qu'il a un imaginaire spatial très poussé, Zola, et qu'il aime bien construire ses récits en pensant l'espace, en plaçant les personnages, en coupant les récits en chronologie de façon très consciencieuse. Et on voit qu'il y a plein de petites précisions par rapport à l'espace et par rapport au temps qui ont été omises. Hein. Vous voyez que quand elle a aperçu devant elle Virginie, oui, forcément c'est devant elle, elle a aperçu, pas derrière. Hein, et, aussi, par exemple, la mention de tandis que qui arrive souvent chez Zola. Il marchait à droite, tandis qu'elle marchait à gauche. On pourrait dire il marchait à droite, elle marchait à gauche, n'est-ce pas, ça marcherait, mais Zola aime bien préciser ses relations temporelles, les relations spatiales. Hein. Et je trouve ça c'est assez intéressant de voir que ça a été des petites précisions qui ont été supprimées. Et puisqu'il y a la présence de Philippe Pamon, je vais profiter pour le dernier exemple de l'espace-temps en bas, parce que c'est tout ce type de phrase motivante, n'est-ce pas ? Gervaise, dès qu'il se fait éloigner, se remit à la fenêtre. C'est la phrase type, n'est-ce pas, pour amener le personnage pour un lieu d'observation. Phrase qui motive ensuite la description de focalisation interne. Toutes ces phrases sont levées dans la traduction. Voilà. Et enfin, pour dire aussi que Zola, évidemment, ce n'est pas simplement Zola réaliste, Zola le réel, mais a toute une dimension poétique dans un sens différent, il m'a semblé intéressant de voir aussi ce qui se passe avec quelques figures de style. Parce que dans la première traduction encore de l'Assommoir, il y a plusieurs métaphores, c'est dans l'Incipit, qui sont soit transformées, soit omises. Enfilant un long ruban d'avenue, non, enfilant une avenue. On a enlevé un long ruban, par exemple. Et ce que j'appelle défiguration, je ne sais pas si ça existe en français, mais c'est donc une figure de style qui est normalisée. J'utilise le mot défiguration, et où c'est écrit que qui, un à un, les dévorait par la rue béante, c'est la ville qui les dévore par la rue béante, c'est traduit par, ou l'un après l'autre disparaissait par la vaste rue. Donc toute cette perspective de la ville comme un monstre qui dévore, c'est perdu. Y a aussi le pantalon mangé par la boue, qui est devenu usé en bas par la marche, qui est une description très concrète, très pratique. Donc il a beaucoup marché, donc ça s'est cassé. Alors mangé par la boue, ça donne toute autre image, la rue qui est presque animalisée, n'est-ce pas? Et voilà, et ça pourrait être intéressant de voir comment les figures de style de Zola sont transmises au nom, du fait qu'on l'associe plus avec cet écrivain qui décrit le réel de façon référentielle, etc., dénotative. Un petit mot aussi sur la métonymie qui passe, je pense, plus facilement en français qu'en suédois. Je pense qu'on l'utilise plus en français qu'en suédois. Il y a en bas, tout en bas, le lavoir se bousculait. C'est pendant la bataille de Gervaise et Virginie. Traduit par les laveuses se bousculaient. Et je pense que c'est une bonne traduction parce que le lavoir se bousculait en suédois, ça ferait image surréaliste. Parce qu'on n'utilise pas autant la métonymie. Donc là encore, perspective à avoir. L'esprit des langues quand on critique, quand on revoit une traduction. Voilà quelques dimensions où on pourrait donc revenir sur le texte source au lieu de critiquer la traduction, c'est l'idée. S'il me reste il me reste quelques minutes, donc oui, ça va aller.
Ça va tout à fait.
Très bien. En ce cas, je vais dire un peu sur l'axe linguistique aussi, la dimension linguistique. Bon, j'ai déjà parlé un peu par rapport à ces mots, comment traduire une langue vers une autre. Processus cognitif très complexe, la question de concevoir le réel d'après la langue. Vous connaissez l'hypothèse Sapir-Whorf, que d'après la langue que tu parles, tu conçois le réel d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe avec une traduction? Et j'ai mis la rubrique l'histoire de la langue. C'est pas l'histoire de la langue, oh, c'est encore cette histoire de la langue, c'est ça que je veux dire. Que faire avec cette histoire de la langue? Parce que c'est tellement compliqué. Il y a déjà ce qui est très important dans l'œuvre de Zola, la représentation du langage parlé, hein, et qui est très difficile à traduire en suédois parce que le français a plus de niveaux marqués, hein, que le suédois. on va dire que le Sula standard est beaucoup plus large que le français standard, qu'il y a beaucoup plus de différences quand on entend un homme politique français parler ou un homme suédois. C'est-à-dire qu'il y a plus de couches, je dirais, en français. C'est déjà difficile. Et après, nous avons donc l'argot, par exemple. Et je cite encore Nelson, le traducteur, citation 11, qui dit « L'argot, il s'agit d'un type de langue extrêmement lié à une époque, un lieu et une culture. Cela implique qu'il est très difficile de traduire l'argot par l'argot. L'argot est aussi extrêmement changeant et c'est de mode très vite. Il est important d'éviter de produire une langue qui serait anachronique. Le traducteur écrit pour le lecteur contemporain. Et il est tout aussi impératif de conserver les spécificités culturelles du texte. » Je pense que ce qu'il dit là, c'est plus ou moins, c'est impossible. N'est-ce pas ? C'est ce qu'il dit, c'est extrêmement difficile. Et que faire de l'argot dans l'assommoir ? Est-ce qu'il faut le traduire par un suédois du 19e siècle ? Est-ce qu'il faut le traduire par quelque chose entre les deux, les années 50, que personne ne comprend non plus ? Est-ce qu'on va le traduire par l'argot de banlieue des immigrés de Stockholm aujourd'hui ? Ce qui ferait complètement bizarre d'avoir des ouvriers parisiens travailler dans la rue qui parlent avec un accent arabe de Suède, n'est-ce pas ? Que faire ? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Et encore une raison de plus pour dire quelle est la bonne traduction. Je pense qu'on peut constater que c'est une difficulté et penser que justement c'est très important dans l'œuvre de Zola. Et encore retour au texte source. Et c'est toute la question de la réception, dans le sens où on l'a développé dans la critique allemande de réception. Je pense à Jauss, je pense à Gadamer, des fusions d'horizons, des horizons différents. Est-ce qu'on doit, au fait, rencontrer le texte original ? Est-ce que peut-être le meilleur texte, c'est la traduction du 19e siècle ? Ou est-ce qu'il faut faire une traduction modernisée ? On a fait un peu le travail déjà. Au fait, c'est ouvert à discussion. Et cela concerne que les traductions, n'est-ce pas ? On dit qu'il faut une nouvelle traduction parce que l'ancienne traduction est un peu vieillie. Il faut une nouvelle traduction parce que l'autre ne marche plus. Mais je pense qu'on ne discute jamais en France, n'est-ce pas, qu'il faut une nouvelle version de Zola parce que c'est vieillie. Parce que le texte reste, n'est-ce pas ? Ou si ça existe, qu'on va réécrire Zola ? Non, le texte reste. Mais pour la traduction, on discute, est-ce qu'il faut moderniser la traduction ? Et c'est assez intéressant parce que faire alors de cette rencontre entre le passé, la distance qui existe ? Qu'est-ce qui se passe si on modernise Zola ? Il n'y a plus l'historicité qu'il y avait dans le texte original. Bon, je pense que ce n'est pas facile de donner une réponse. J'évoque simplement la problématique. Et c'est ce que discute aussi Cal Zolari, citation 12. Il dit « En général, on cherche une solution de compromis, un « gentleman's agreement », qui évite soit de rendre l'original dans une langue tout à fait contemporaine, ce qui moderniserait trop le texte, soit de réinventer une langue du 19e siècle qui serait fausse comme l'autre. » Alors, la solution serait alors de faire quelque chose entre les deux, mais c'est pas une langue non plus. Extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et enfin, dernière perspective pour la langue, c'est le fait que la langue de Zola, n'est-ce pas, était très choquante à l'époque. Quand ça sortait, il ne faut pas écrire comme ça, ce type de langage, c'est trop bas. Il y avait toujours, n'est-ce pas, ce souvenir de une différence de haut style, bas style par rapport au genre, n'est-ce pas. Et... on pourrait quand même discuter, et aujourd'hui, ce n'est pas très choquant de voir dans un film ou dans un livre le mot salope, mais en 79, en Suède, c'était très choquant. Alors, si on modernise la traduction, est-ce qu'il faut exagérer le texte original pour montrer jusqu'à quel point c'était choquant ? Cal Zolari dit non. Citation 13, il serait incorrect, à mon avis, d'exagérer, par exemple, la crudité de la prose zolienne, jugée en son temps scandaleuse, mais qui, en comparaison de certains romans contemporains, reste forte, mais toujours mesurée. On pourrait aussi avoir un avis contraire, qui, pour bien comprendre Zola, il faudrait quand même épicer un peu la langue par rapport à aujourd'hui, pour qu'on comprenne jusqu'à quel point c'était choquant. Et là, on revient sur l'idée de fusion d'horizons. Est-ce qu'on va aider cette fusion ou non ? Donc toute une problématique qui dépasse de loin la question est-ce qu'il faut traduire rouge par rouge vermeil ou non. C'est toute une problématique, je pense, qui est très très large et très compliquée. Et je me souviens, en ne prenant pas de position, mais simplement évoquer la problématique. Je laisse à Élise de résoudre le problème dans sa thèse. Pas très, très bien. Et, non, mais bon, c'est une problématique, je pense, très, très, à la fois intéressante et très compliquée, hein, très difficile. Et je voudrais finir par parler d'une dimension aussi de la langue, de la poétique en même temps, très importante, tout ce qui est la prosodie. Vous m'aviez posé la question à Lille, mais qu'est-ce que vous faites la prosodie ? Et je cite d'abord Nelson, encore une fois, parce que c'est un très bel article qu'il a fait. Il est un très bon traducteur, un très bon connaisseur de Zola, donc il sait vraiment de quoi il parle, pour le dire simplement. Citation 14. « Au niveau de la voix, du ton, du registre, du rythme, de la syntaxe, des échos, des sons, des connotations, la couleur, la texture et la musique des mots, tous ces facteurs font le style et sont le reflet d'un mariage entre style et sens. » Je suis d'accord. Il y a tout cela dans le texte, chez Flaubert, chez Zola. Hein. Il y a tout cela, et en même temps extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de le traduire en suédois. Plus les langues sont éloignées, plus c'est difficile de respecter la syntaxe. Il y a une autre grammaire, une autre syntaxe, il y a d'autres sonorités. Et je pense que ça donnerait des résultats assez prévisibles. Je veux voir si on a pu traduire toutes les allitérations. Non, ce ne serait pas possible parce qu'on n'a pas le même vocabulaire, etc. Donc, dimension importante, mais qui nous échappe, je pense, dans la traduction. Et pour l'illustrer, je vais défier votre patience un peu et je vais vous lire l'incipit germinal en suédois. Et vous pourrez suivre le texte un peu bizarre à droite, qui est donc une traduction déjà trop fidèle. C'est trop fidèle au français. C'est déjà en suédois un peu artificiel. Et c'est ce qui se passe si on essaie de respecter trop l'original, ça fait un peu artificiel dans sa langue. Mais bon, j'essaie de le faire le plus proche, et pourtant, en le faisant le plus proche possible, vous verrez déjà par rapport à la grammaire qu'il y a un autre syntaxe, que les articles, ça se place différemment. Et notamment, ça sonnera un peu différent. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez suivre le texte à droite pendant que je le lis en suédois. Simplement pour illustrer ce point de prosodie. På den jämna slätten, i den stjärnlösa natten, i ett mörker och tjocka som bläck, gick en man ensam fram på landsvägen från Marchien till Monceau, en 10 kilometer stenlagd väg som skar rakt igenom sockerbetsfälten. Framför sig såg han inte ens den svarta marken och hade endast förnimmelsen av den ofantliga, platta horisonten genom marsvindens pustar. Kastbyar, breda som på havet, iskalla av att ha svept undan midslånga träsk och nakna jordar. Ingen trädskugga fläckade himlen. Den stenlagda vägen rullade ut sig med en vågbrytares rätlinjighet mitt i mörkrets bländande stänk. Vous voyez autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est une traduction fidèle et trop fidèle. Bon, je pense que c'est ça. Si on peut prouver mon point qu'on ne peut pas transposer la prosodie. Ça, c'était une traduction fidèle, trop fidèle, une lecture normale. Pas dialectale, une lecture normale en suédois. Voilà. Et ce n'est pas du Zola. C'est-à-dire que ça donne autre chose, forcément. Voilà. Donc, pour conclure, je n'ai pas avant de conclusion, d'autant plus que je n'ai pas de manuscrit avec une belle phrase de la fin qui m'aide. J'ai mis simplement pour une étude la somme de transfert de Zola. Somme de transfert, c'est bien sûr un terme emprunté au monde du sport. Hein. On parle de somme de transfert de footballeur, par exemple. Et c'est à la fois la somme pour qu'il change d'équipe, c'est son salaire, c'est tout. Et je pense quand on parle de transfert, c'est aussi une somme. On ne peut pas simplement faire les statistiques, on ne peut pas simplement regarder tel motif, on ne peut pas simplement voir la poétique. Il y a toutes ces perspectives qui sont importantes, et au fait, encore plus d'une somme, mais bon, la somme de transfert, c'est un bon slogan que j'ai. C'est plus d'une somme parce que c'est aussi l'interaction entre les dimensions. Et on le voit sur l'argot. L'argot, c'est à la fois une question linguistique, c'est une question de la poétique de Zola qui veut représenter une certaine langue. C'est aussi une question de source critique par rapport à qu'est-ce qu'on va traduire, qu'est-ce qu'on peut traduire de tel climat. Et la source critique est toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argot? Est-ce qu'on va le traduire? Est-ce qu'on va mettre une note explicative? En tout cas, pour quel lecteur, sur quel niveau, etc. Il y a toutes ces questions dont la traduction qui dépasse la simple question de la langue, qui dépasse la simple question de la poétique de Zola, pour embrasser, au fait, une problématique très très large. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, ce ne sont pas des résultats définitifs, ce sont donc mes résultats préliminaires. J'ai fait quelques études sur Zola, il y a des références là après. Et je suis donc, comme m'avait dit Olivier au début, je suis en train de formuler un projet pour une somme de transfert de Zola. Et c'est à peu près là où j'en suis. Hein, et c'était un plaisir. J'espère que ça a donné quelque chose pour vous aussi de présenter un peu mes idées sur toute la problématique de la traduction. Et je remercie encore Alain Pagès et Olivier Lombroso de l'invitation. Je profite officiellement de remercier aussi Philippe Armand de m'avoir énormément inspiré durant les années. Je vous remercie tous de votre attention. J'espère que ce n'est pas été trop long.
Non.
Merci.
Hans, merci. Merci pour cet exposé qui, au fond, nous apporte un regard assez neuf sur ces questions-là. Et le sujet n'est pas non plus fréquent. Donc ce séminaire au carrefour des disciplines nous montre déjà tout l'intérêt de l'interdisciplinarité et du dialogue des cultures au-delà des frontières. Bien sûr, pour nous, je pense, et Alain et tous les collègues qui travaillent sur le naturalisme monde pourront dire qu'effectivement, vous apportez de l'eau à notre moulin sur cette question extrêmement importante des traductions, de la traduction, la langue de l'Europe, comme on dit, qui fait partie de notre sujet. Et ce qui m'a paru important, c'est que vous le fassiez sous l'angle d'une méthodologie. Oui. Alors, des éléments de méthodologie qui sont là, clairement explicités, qui peuvent être sujets à discussion, sur les statistiques, par exemple, sur l'assimilation de l'édition numérique à l'édition papier, alors que ce sont des corpus très différents, on pourra en reparler. Mais, en tout cas, il y a vraiment un effort de méthodologie. On peut dire que vous travaillez, au fond, en traduction, sur un régime plurilingue et interculturel. Alors, je ne sais pas si ces termes peuvent résonner pour vous et ce que vous mettez derrière, mais il y a effectivement ces enjeux de plurilinguisme, d'interculturalité. Il me semble que ce qui est assez neuf dans ce que vous proposez, c'est que vous ne restez pas à des concepts en opposition. Vous nous avez montré qu'on ne peut pas rester sur texte source, texte cible, par exemple, sur langue d'origine, langue de traduction, sur censure du plein, censure du vide. Mais vous avez complexifié, je trouve, ces choses-là pour nous montrer que la censure est indirecte, elle est partielle, elle est voilée.
Elle peut l'être.
Elle peut l'être ou elle ne peut ne pas l'être.
Je pose la question.
Alors,